Chapitre 3. Bosch avait l'habitude d'être seul chez lui lorsqu'il reprenait de vieux dossiers et essayait d'imaginer de nouveaux angles d'attaque. C'était une tâche assez largement silencieuse. Maintenant, il devait se réhabituer, travailler dans une salle d'inspecteur et réapprendre l'art de faire abstraction des conversations autour de lui de façon à pouvoir se concentrer sur son boulot. Pendant que Ballard passait des coups de fil et gérait ses obligations politiques de l'autre côté d'une cloison de confidentialité qui ne servait à rien, il ouvrit le premier des trois livres du meurtre consacré à l'enquête jusqu'à ce jour infructueuse sur l'assassinat de Sarah Pearlman. Il attaqua avec le classeur marqué volume 1 et alla immédiatement à la table des matières. Il y découvrit que toutes les photos de scènes de crime et de médecine légale était rangé dans le troisième volume et l'ouvrit aussitôt. Ne sachant rien de l'affaire, il voulait commencer par là afin de voir ce qu'avaient découvert les enquêteurs le matin du 11 juin 1994, lorsque le corps mutilé de la victime avait été trouvé dans le lit qu'elle occupait chez elle, dans Maravilla Drive des Hollywood Hills. Le troisième livre du meurtre contenait plusieurs pochettes en plastique transparent attachées aux anneaux, chacune d'elles renfermant deux photos couleurs au format 13-18 recto verso. Sur ces clichés standards violemment éclairés, le sang paraissant violet noir et la peau blanche ayant viré à l'albâtre, la victime n'avait plus rien d'humain. Sarah Pearlman avait à peine 16 ans lorsque la vie lui avait été brutalement ôtée par un violeur qui l'avait étranglée, poignardée. Les premières photos la montraient étendue sur son lit, sa chemise de nuit en flanelle remontée sur sa poitrine et son visage. Bosch crut d'abord que l'assassin avait voulu empêcher la victime de voir ses traits, mais en passant d'un cliché à un autre, il lui apparut clairement qu'il avait remonté la chemise de nuit après avoir agressé et tué la jeune fille. Bosch comprit qu'il avait regretté son acte et lui avait couvert le visage pour ne plus être obligé de le voir. De multiples coups de couteau avaient été portés à la poitrine et au cou de la victime, son sang trempant les draps et la couette avant de coaguler autour de son corps. Les bleus sur son cou indiquaient manifestement qu'elle avait été étranglée à un moment donné de son calvaire. Années de guerre et de travail dans la police comprise, cela faisait plus d'un demi-siècle que Bosch étudiait les causes de décès non naturels. Dire qu'il s'était habitué aux cruautés et dépravations que s'infligent les humains serait faux. Mais il y avait longtemps qu'il ne prenait plus ces explosions de violence pour des aberrations. Il ne croyait plus guère à la bonté des gens. Pour lui, la violence n'avait rien d'anormal. C'était même plutôt la norme. Il savait que c'était une vision bien pessimiste du monde, mais 50 ans de dur labeur dans tous les lieux où coule le sang ne lui avait guère laissé d'espoir. Le sombre moteur du meurtre, il le savait aussi, ne manquerait jamais de carburant. Pas dans toute sa vie, ni dans celle de n'importe qui d'autre. Il continua de passer ses clichés en revue afin de se les imprimer à jamais dans l'esprit. C'était ainsi qu'il fallait procéder, il le savait. Il n'y avait pas de meilleure façon de le mettre en rage, de le lier de manière inextricable à la victime qu'il n'avait jamais vue qu'en photo. Cela suffisait à allumer le feu dont il avait besoin. Après les photos de la scène de crime, vinrent celles des premières constatations montrant des éléments de preuve, certaines possiblement à charge, les taches de sang sur le mur, au-dessus de la tête de lit et sur le plafond, ses sous-vêtements déchirés jetés au sol et un appareil dentaire retrouvé dans les plis de sa couette. Il avait encore plusieurs photos d'empreintes digitales identifiées, puis passées à la poudre noire et relevées par des techniciens délatantes. Bosch savait qu'elles correspondraient probablement à celles de la victime, dont c'était la chambre. Les notes des enquêteurs qui les accompagnaient le lui confirmèrent. Mais une photo de ce qui semblait être la moitié inférieure d'une paume portait l'annotation INC, inconnue. Elle avait été relevée sur un appui de fenêtre, et son positionnement indiquait qu'elle y avait été laissée par quelqu'un qui était entré dans la pièce par effraction. En 1994, cette partielle de paume n'aurait servi à rien, à moins d'être comparée directement à celle d'un suspect. Bosch travaillait aux homicides à l'époque et savait bien qu'il n'y avait pas de banque de données d'empreintes de paume de main. Même maintenant, soit presque 3 décennies plus tard, il n'y en avait guère en ligne ou dans les banques de données pour pouvoir effectuer des comparaisons. Il regarda Ballard par-dessus la cloison. Elle venait juste de raccrocher après s'être entretenue avec un homme d'affaires du coin, célèbre pour avoir construit des centaines d'appartements en centre-ville. Elle voulait qu'il rejoigne sa cause et soutienne financièrement le travail de l'unité des affaires non résolues. « Comment ça a marché ?» lui demanda Bosch. « Je le saurai plus tard, » lui répondit-elle. « Nous verrons bien s'il nous signe un chèque. C'est la fondation de la police qui m'a donné une liste d'anciens donateurs et j'essaie d'en appeler 2 ou 3 par jour. » Tu savais que tu ferais ce genre de truc quand tu as accepté ce boulot? Pas vraiment, non. Mais ça ne me gêne pas. J'aime assez faire culpabiliser les gens pour qu'ils nous donnent du fric. Tu serais surpris de savoir combien de personnes connaissent quelqu'un qui a été victime d'un crime non résolu. Non, je ne pense pas que ça me surprendrait. Oui, bon, probablement pas. Et pour Perlman, ça se présente comment? N'en suis encore qu'aux photos. Je savais que c'était par là que tu commencerais. C'est pas beau, non. Des premières impressions? Pas encore. Faut que j'en voie davantage. Mais l'empreinte de paume, la partielle, j'imagine que tu l'as passée dans les bases de données d'aujourd'hui. Oui, tout de suite, mais ça n'a rien donné. Il acquiesça d'un signe de tête. Ça ne l'étonnait pas. Et côté VAECAP?
Nada, pas de correspondance.
Monté par le FBI, le Violent Criminal Apprehension Program avait une base de données où étaient recensés tous les crimes avec violence et les tueurs en série. Mais tout le monde savait qu'elle était loin d'être complète. Bon nombre d'agences des forces de l'ordre n'obligeaient pas leurs enquêteurs à y entrer des affaires à cause du temps que cela prenait pour remplir tous les questionnaires. Rien qu'à regarder ces photos, j'ai du mal à croire que le type n'a fait ça qu'une fois.
Moi aussi. En plus de VAECAP, j'ai passé des coups de fil à pas mal d'unités des affaires non résolues, de San Diego à San Francisco. Ni correspondance, ni similitude. J'ai même téléphoné à notre vieil ami Rick Jackson. Il travaille sur ses affaires pour le comté de San Mateo. Il a cherché de son côté, mais rien là non plus.
Jackson était un inspecteur des homicides du LAPD du temps de Bosch. « Comment va-t-il ? » demanda celui-ci.
On dirait qu'il boucle des dossiers à l'appel, et moi j'espère qu'on va faire pareil ici.
T'inquiète pas pour ça, on le fera.
Bon, alors, écoute-moi. Le lundi, je vais retrouver le capitaine au PAB pour lui faire le point sur le boulot, le budget et le reste. Je serai donc probablement en ville jusqu'à ce que je finisse ma journée et rentre chez moi. Ça te va? Tom et Lilia pourront t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit.
Ça me va, oui. C'est quoi le règlement pour emporter des trucs à la maison?
Interdiction de sortir les livres d'ici. Le principe, c'est de garder tous les dossiers des affaires non résolues au même endroit. Tu vois?
Je comprends. Il y a une photocopieuse?
Pas de copie non plus, Harry. Je n'ai pas envie de me disputer avec le capitaine à cause de ça.
Il hocha la tête.
D'accord? Je suis sérieuse, insista-t-elle.
J'ai compris.
Eh bien, bonne chasse. Tu penses revenir demain?
Et je ne te mets pas la pression.
Oui, je crois. Parfait. Alors à demain.
C'est ça. Il la regarda partir, puis jeta un coup d'œil à l'autre bout de la pièce en direction de Lafont et Axafi. Il n'aperçut que le haut de leur tête au-dessus de leur cloison. Il se remit à feuilleter les photos de la scène de crime afin de se les graver à jamais dans la mémoire. Dès qu'il en eut terminé, il revint au volume 1 et le reprit du début. Les premiers enquêteurs à avoir travaillé sur l'affaire s'appelaient Dexter Kilmartin et Philip Rossler. Il les connaissait de nom, mais pas personnellement. Ils travaillaient à la division des vols et homicides chargée des crimes importants dans toute la ville. Il ouvrit leur relevé chronologique. On y voyait que les inspecteurs de la division des homicides d'Hollywood avaient répondu à l'appel le matin du 11 juin, mais que l'affaire avait été vite transmise au poids lourd des vols et homicides du LAPD. Un crime sexuel perpétré contre une mineure de 16 ans dans les Hollywood Hills étant sûr d'attirer toute l'attention des médias. À l'époque, Bosch travaillait aux homicides d'Hollywood. mais n'avait pas été envoyé sur les lieux parce que son partenaire, Jerry Edgar et lui, n'étaient pas de service. Cela dit, il se souvenait vaguement de l'affaire et n'avait pas oublié que les vols et homicides du LAPD s'en étaient vite emparés. Il ne pouvait pas savoir qu'elle ne retiendrait l'attention des médias qu'un seul jour. Le lendemain soir, l'ex-épouse du génial joueur de football américain et pas si génial acteur O.J. Simpson était en effet retrouvée assassinée avec un de ses amis à Brentwood. Les médias en oubliant aussitôt l'affaire Pearlman et tout ce qui avait pu se passer d'autre en ville. Les meurtres de Brentwood suscitant un formidable intérêt dans les médias toute l'année suivante et au-delà, Sarah Pearlman était passée à la trappe. Sauf pour Kilmartin et Rossler. La chronologie montrait qu'ils avaient fait tout ce qui convenait, du moins pour Bosch. Plus important encore, ils s'étaient retenus de trop rapidement attribuer le meurtre à un inconnu. Que l'assassin soit entré dans la chambre de la victime par une fenêtre ouverte ou non verrouillée suggérait effectivement que celle-ci ne le connaissait pas, mais cela ne les avait pas empêchés de mener une enquête complète. Ils avaient procédé à un examen approfondi des antécédents de la victime et interrogé quantité de ses amis et parents. Sarah fréquentait une école privée de filles de Hancock Park. Et même si celle-ci était alors fermée pour les vacances d'été, ils avaient passé plusieurs jours à retrouver des camarades de classe, des copines et des membres du corps enseignant pour essayer d'avoir un tableau complet du monde dans lequel évoluait la jeune fille. Une semaine avant d'être assassinée, elle avait pris un boulot d'été comme hôtesse d'accueil dans un restaurant de Melrose Avenue, le Tommy Tanks. Elle avait déjà travaillé dans cet établissement populaire de cuisine thaï l'été précédent et y était connue et appréciée par plusieurs de ses employés. Ils avaient été interrogés, les inspecteurs allant jusqu'à examiner les reçus de cartes de crédit du restaurant les jours où Sarah y avait travaillé. Ils avaient encore retrouvé et interrogé plusieurs clients, mais aucun d'eux n'avait accédé au statut de suspect. L'enquête avait aussi porté sur ses parents. Le père de Sarah étant un avocat spécialisé dans les grosses transactions immobilières, Kilmartin et Rossler avaient interrogé beaucoup de ses employés et nombre de gens impliqués dans les négociations qu'il menait. Aussi bien des clients, qui auraient eu à se plaindre de son travail, que certains de l'autre bord dans ses tractations les plus ardues. Là non plus, personne n'avait accédé au statut de suspect. Pour finir, il y avait l'ex-petite amie de Sarah. 4 mois avant sa mort, celle-ci avait rompu avec un certain Brian Richmond, dont elle avait fait la connaissance lors de la rencontre annuelle entre son école et une école de garçons de Hancock Park. Il avait été interrogé à fond, voire soupçonné, mais blanchi. Il avait laissé tomber Sarah et sortait avec une autre fille. Au moment du meurtre, les parents de Sarah étaient en vacances et faisaient du golf à Carmel, où ils fréquentaient les parcours de Pebble Beach et alentour. Sarah restant à la maison de Marabilla Drive avec son frère Jake, de 2 ans son aîné. Ce vendredi soir-là, elle était rentrée vers 22 heures après sa journée de travail au restaurant. Elle avait son permis et pouvait se servir de la voiture de sa mère en son absence. Jack, lui, était allé voir sa petite copine et n'était pas rentré avant minuit. La voiture de la mère étant dans le garage et la porte de la chambre de sa sœur fermée, il avait décidé de ne pas l'embêter. Il n'avait pas vu de lumière sous sa porte et s'était dit qu'elle dormait. Le matin venu, la mère de Sarah avait appelé pour voir comment allaient ses enfants, Jake lui disant qu'il n'avait pas encore vu sa sœur. Il n'était pas loin de 11 heures. Elle lui avait demandé d'aller la réveiller parce qu'elle avait quelque chose à lui dire au téléphone. C'est à ce moment-là qu'il avait découvert que Sarah avait été sauvagement assassinée dans son lit et que le cauchemar de toute la famille avait commencé. Bosch ne prit aucune note en étudiant les nombreux résumés d'interrogatoires du volume 1. La première enquête avait été exhaustive et semblait complète. Il n'y avait rien vu qui aurait été laissé de côté ou mérité un suivi. Lorsqu'il travaillait aux affaires non résolues, reprendre une affaire et voir comment, à cause de la paresse ou autre, une enquête avait été bâclée n'était pas inhabituel. Mais là, ce n'était pas le cas. Il avait le sentiment que Kilmartin et Rösler avaient pris l'affaire à cœur et n'avaient négligé aucune piste. Et, détail qui rendait la chose encore plus impressionnante à ses yeux, au moment de leurs investigations, la victime n'avait aucun lien avec un quelconque homme politique important. Cela se passait bien des années avant que ce ne soit devenu le cas. Il avait travaillé 2 heures lorsqu'il passa au volume 2, soit le 2e livre du meurtre, et s'aperçut que le classeur avait été mis à jour 30, puis 90 jours, puis 6 mois plus tard, et une fois par an pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'enfin l'affaire soit officiellement déclarée non résolue et inactive. Aucun suspect, pas même potentiel, n'avait émergé. Que Sarah connaisse ou ne connaisse pas son assassin, n'étant pas davantage déterminé. C'était à la fin du volume 2 qu'avaient été conservés les dossiers d'interrogatoires annexes, dont, entre autres, ceux de la famille au fil des ans. Les parents de Sarah avaient passé de nombreux coups de fil à la police pour savoir où en était l'enquête et n'avaient cessé de le faire que 7 ans plus tôt. Le conseiller municipal Jack Perlman avait alors pris la relève, ses demandes émanant parfois aussi de son chef de cabinet, Nelson Hastings. Bosch comprit que les parents de Sarah étaient morts sans avoir obtenu justice pour leur fille. Il termina son examen en revenant aux photos du volume 3 et rouvrit lentement les pochettes en plastique à la recherche de quelque chose dans la chambre de Sarah qui pourrait indiquer qu'on avait loupé un indice ou un élément de preuve. Enfin, il arriva au cliché de la scientifique et, dans la dernière pochette, il reprit la photo de la carte d'empreinte digitale sur laquelle un technicien des latentes avait attaché la partielle de paume. Il la regardait fixement lorsque, sentant une présence, il leva la tête et vit que Tom Lafont avait quitté son poste de travail pour le rejoindre. « Tout va bien ?» lui demanda celui-ci.
« Oui, bien, bien. » « Je jetais juste un coup d'œil à ce truc, » lui répondit Bosch, mal à l'aise sous son regard scrutateur.
« Elle vous a filé la grosse affaire, hein ?» enchaîna Lafont.
« Que voulez-vous dire ?»«
L'assassinat de la sœur du conseiller municipal. J'ai comme l'impression que si on ne la résout pas, on ne restera pas ici très longtemps. »«
Vous croyez ?»«
C'est que Ballard passe beaucoup de temps au téléphone avec lui, vous savez bien, pour lui rapporter tout ce qu'on fait ici au coup par coup. » Ces conversations ont toujours l'air de tourner autour de la petite sœur, d'où la pression maximum sur la patronne, ça ne fait aucun doute.
Bosch se contenta de hocher la tête.
« Vous avez trouvé des choses qu'on devrait faire ?» le pressa Lafont. « J'aimerais bien qu'on la résolve, celle-là. »«
Toujours pas, non, je cherche encore. »«
Eh bien, bonne chance, vous allez en avoir besoin. »«
Vous faisiez quoi au bureau ? Vous étiez à l'antenne de L.A. ?»
J'ai commencé à San Diego et fait des passages à Sacramento et à Oakland avant de finir ici, au Major Crimes. J'ai rendu mon tablier au bout de 20 ans. J'en avais marre de poursuivre des détrousseurs de banque.
Je peux comprendre.
Lilia et moi avons fini pour la journée. Bienvenue à l'unité et à la prochaine.
À la prochaine.
Bosch les regarda rassembler leurs affaires et se diriger vers la sortie. Il attendit un instant, puis se leva pour gagner la photocopieuse. Il avançait vers la porte de la salle des archives lorsqu'il s'arrêta pour regarder une allée. Des deux côtés, des livres du meurtre se pressaient sur les rayonnages, certains d'un bleu tout neuf, d'autres passés, plus quelques dossiers dans des classeurs blancs. Il longea lentement les alignements de livres, en passant les doigts sur leurs attaches en plastique. Tous disaient un meurtre, toujours pas résolu, et pour lui, ces lieux étaient sacrés. Ils constituaient la bibliothèque des âmes perdues et se comptaient en bien trop grand nombre pour que lui, Ballard et les autres puissent jamais les résoudre, en atténuer la douleur. Arrivé au bout de l'allée, il fit demi-tour et enfila la suivante, elle aussi pleine de dossiers d'affaires non résolues. Un vasistas laissait filtrer le soleil de l'après-midi, cette lumière naturelle éclairant des morts qui ne l'étaient pas. Il s'arrêta un instant, puis s'immobilisa. Seul régnait le silence dans la bibliothèque des âmes perdues.